Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Anglais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. C'est tout à fait paradoxal, mais l'économie pourrait manquer de bras pour la reprise. Les pénuries de main-d'œuvre se multiplient absolument partout, François.
Oui, c'est un paradoxe incroyable, hein, et d'autant plus saisissant qu'il y a encore quelques semaines, donc vraiment tout proche, on était dans une situation rigoureusement inverse, de surcapacité par rapport à une demande qui était extrêmement faible. C'est un retournement complet. Pour les patrons, c'est bien sûr la douche écossaise, parce qu'ils se trouvent face à des problèmes symétriques que ceux qu'ils ont connus tout au long de l'année dernière. Bon, évidemment, cette fois-ci, il n'y a pas d'aide de l'État, il faut se débrouiller tout seul pour trouver justement les ressources dont on a besoin afin de faire fonctionner son entreprise. En réalité, on a sous-estimé la demande des consommateurs, des industriels et puis bien sûr des États avec les plans de relance. On se rend pas compte, on nous pronostique une croissance de 6% en France et globalement dans la zone euro. 6% de croissance, on n'a pas connu ça depuis les années 70, ça fait 50 ans. C'est quasiment un rythme de pays émergents et on n'a plus du tout l'habitude d'être confronté à ces problèmes-là. En témoignent les intentions d'embauche, elles ont été mesurées tout récemment par Pôle emploi qui publie son baromètre régulièrement. On est à 2,7 millions d'intentions d'embauche. Selon ce baromètre, c'est comparable au plus haut d'avant la crise, hein, au cours de l'année 2019. Ça souligne d'ailleurs l'erreur de prévision de beaucoup d'économistes et de responsables politiques, hein, qui pronostiquaient un tsunami social avec la disparition jusqu'à 800 000 emplois. C'était même les ordres de grandeur évoqués par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Bon, c'est d'ailleurs au bénéfice des aides qui ont été mises en place. J'allais dire finalement, heureusement, vu ce qu'on a dépensé, qu'il n'y a pas eu de catastrophe sociale. Mais non seulement c'est ça, mais c'est l'inverse qui se profile.
Alors, quels sont les secteurs dans lesquels ces pénuries sont les plus fortes? On savait avant l'épidémie qu'il y avait de grandes difficultés dans le BTP, dans les services informatiques. Mais cette fois, cela va vraiment bien au-delà de ces secteurs déjà cités.
Ah oui, c'est à peu près général. Alors, dans les secteurs classiques, il y a tous ceux que vous citez. Il y a aussi la logistique qui était déjà un peu en tension, mais qui l'est bien davantage parce que le e-commerce a explosé. Il y a l'aide à domicile, hein, qui était vraiment en pénurie chronique. Et puis l'agriculture, elle aussi connaissait des pénuries. On se disait finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, mais à cause des problèmes météorologiques, elle ne souffrira pas cette année. Pas du tout, hein. Et notamment, les maraîchers sont en grande difficulté et ils sont contraints de faire venir des travailleurs de l'étranger. Le point critique lié à l'épidémie, c'est bien sûr l'hôtellerie-restauration, parce que il manquerait jusqu'à 140 000 personnes selon l'UMIH, qui est l'organisme professionnel. Et ce qui est frappant, on se dit a priori c'est plutôt les régions touristiques, le sud de la France, la Bretagne et tout. Bien sûr, elles sont concernées et les patrons sont vraiment, je ne dis pas dans un état de détresse, parce qu'ils sont contents de rouvrir et puis de voir les clients réapparaître, mais d'inquiétude dans l'idée de ne pas pouvoir faire face à la demande. Mais il y a aussi des régions qui ne sont pas du tout touristique, l'Aisne par exemple. Hein. C'est pas lui faire injure que de dire que les flux touristiques en France ne sont pas les plus importants là-bas. Et bien pourtant, les professionnels du secteur s'inquiètent eux aussi. Nouveauté aussi, les énergies renouvelables. En fait, c'est l'équipement de la maison, là, le remplacement des chaudières par des pompes à chaleur, qui a été stimulé par l'essor des primes gouvernementales, bien sûr, du coup, pénurie également. Les piscines, on en a parlé déjà dans ce podcast, les commerces de bricolage. En fait, ce sont au-delà des secteurs traditionnels, la France des loisirs, celle qui était en panne et qui justement, où le ressort est très tendu et s'apprête à se détendre. Et puis, tout ce qui se rapporte à l'équipement de la maison, on en a aussi parlé déjà dans ce podcast, qui connaît une activité tout à fait inhabituelle.
Mais alors, au-delà de la croissance de la demande, comment peut-on expliquer cette pénurie générale? Parce que, après tout, les salariés n'ont pas disparu purement et simplement pendant toute cette période de confinement successif.
Non, c'est vrai qu'il y a un peu un mystère, mais c'est un peu les mystères de la psychologie, du comportement humain, hein, qui sont déterminants en économie et notamment dans les comportements vis-à-vis du marché de l'emploi. D'abord, il y a eu des réorientations de salariés qui ont quitté des secteurs qu'ils considéraient comme trop risqués. C'est le cas de la restauration. C'était des gens qui étaient là par opportunité, parce que le travail était facile à avoir, et puis qui, devant la durée de la crise, se sont dit « Oh là là, c'est pas possible, et il faut que je change non seulement de crèmerie, mais carrément de secteur. » Et les 140 000 contenus dont on parlait, justement, se sont probablement réorientés vers de nouvelles activités. Il y a aussi les perturbations persistantes à cause de l'épidémie. Aux États-Unis, par exemple, on estime qu'un bon nombre des pénuries sont liées au fait qu'au moins un des deux parents reste à la maison parce que les écoles n'ont pas toutes ouvertes. Donc le problème de la garde des enfants, il n'est pas réglé. Et du coup, des gens qui étaient en situation de travail intermittent restent à la maison et ça fait autant de travailleurs en moins. Il y a aussi tout un débat qui prend une certaine ampleur aux États-Unis sur le montant des aides et du chômage partiel, et notamment le prolongement par l'administration Biden de cette fameuse aide fédérale de $300 par semaine qui s'ajoute en réalité aux aides des États fédérés. Dans certains cas, là où les États sont les plus généreux, on peut toucher jusqu'à 500 euros par semaine. C'est considérable, enfin considérable, par rapport au salaire minimum, c'est en gros deux fois le salaire minimum de certains États. Donc évidemment, on peut imaginer facilement que ça joue, que les incitations à reprendre le travail ne sont pas si importantes qu'elles étaient auparavant. Il y a aussi, bien sûr, en toile de fond, la démographie. C'est pas nouveau. En démographie, tout est lent, mais ça finit par produire des effets très importants sur le long terme. Le problème de fond, c'est que tous les pays du monde, Chine y compris, vieillissent et que les classes d'âge les plus nombreuses, au moins en Occident, c'est celle des baby-boomers, elles sont parties à la retraite, et que celles qui leur succèdent sont des classes moins nombreuses. Là encore, l'épidémie ne crée pas les problèmes, mais elle les révèle, elle les accélère.
Alors, la France connaît-elle une situation particulière ou bien est-ce qu'on retrouve finalement une situation identique un peu partout dans le monde ?
C'est universel ou presque, c'est frappant. Tous les pays se plaignent, et notamment les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises se plaignent de ce problème, jusqu'au Québec, où il y a là aussi 150 000 emplois qui ont disparu, l'Espagne, dont évidemment on le sait, le PIB dépend beaucoup du tourisme, et justement l'hôtellerie et la restauration. Aux États-Unis, les chiffres sont saisissants, il y a 8 millions de personnes au travail en moins par rapport à février 2020. Ça fait 5 à 6% de la main-d'œuvre qui a disparu, et 43% des PME avoir des difficultés à recruter. C'est d'autant plus net pour elles que, évidemment, les grandes entreprises souvent payent mieux ou bien elles offrent des avantages sociaux plus importants. Donc les PME, ce sont elles qui sont les plus vulnérables, elles ne parviennent pas à recruter parce que, en général, les candidats s'adressent d'abord aux grandes entreprises qui donnent des salaires meilleurs et des avantages sociaux. Aux États-Unis, 43% des PME disent avoir des difficultés de recrutement en ce moment.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les effets de cette pénurie ?
Il y a d'abord le salaire, c'est la bonne vieille loi de l'offre et la demande. Quand la demande est faible, eh bien en général, quand on augmente les salaires, ça va mieux. Aux États-Unis, les salaires sont en train d'exploser littéralement dans les secteurs les plus exposés à la pénurie. C'est 19% d'augmentation des salaires sur une base annuelle pour l'hôtellerie aux États-Unis. Dans les restaurants, on offre l'assurance santé aux salariés. Et c'est vrai que on se rend compte que finalement, ces secteurs, l'hôtellerie-restauration, et ça vaut aussi pour la France, pour certains, des habitudes d'emploi extrêmement difficiles à supporter pour les salariés. Et du coup, dès que les choses se tendent, eh bien, ce sont ceux-là qui sont les premières victimes, parce que après tout, quand on a le choix, évidemment, on préfère prendre des conditions d'emploi qui sont meilleures. C'est le cas aussi pour nos maraîchers qui se trouvent contraints de payer le transport justement des étrangers qu'ils font venir pour faire les récoltes. Deuxième option, réformer l'offre. On voit que aux États-Unis, là où ils sont un peu en avance sur le déconfinement, les cartes des restaurants sont plus restreintes. Parce que y a moins de cuisiniers. Donc au lieu d'avoir 5 ou 6 entrées, on n'en a plus que 2, et puis 2 plats principaux, et puis le client se débrouille avec tout ça. Le dernier élément, c'est faute de mieux, on embauche sans qualification et sans diplôme. Et le secteur de la transformation numérique, par exemple, qui connaît aussi un plein boom, parce que l'épidémie a accéléré la dématérialisation de l'économie, eh bien ce secteur connaît là aussi des grandes difficultés à recruter des développeurs. 80% des entreprises en France sur ce secteur se disent désormais prêtes à recruter des salariés qui n'ont ni expérience professionnelle, ni diplôme en la matière, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix.
Mais alors, François, une question naïve. Est-ce que le chômage va purement et simplement disparaître de la planète avec tout ce que vous nous racontez depuis le début de ce podcast ?
Question pas si naïve et pas si facile que ça, parce que évidemment, on pourrait se dire mécaniquement, on a besoin d'emploi, donc on met les chômeurs au travail. Mais il y a deux facteurs très importants qui jouent et qui font que justement, dans les années 90, je me souviens, en France, d'éminents esprits avaient pronostiqué justement la disparition du chômage à cause de la mise à la retraite progressive des baby-boomers, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le premier élément, c'est le système social. Justement, on vient de le dire, hein, il a quelquefois un rôle désincitatif par rapport à la prise de l'emploi. Et ça explique probablement en partie en France qu'il y a un chômage structurel plus important qu'ailleurs. C'est que on a des protections qui sont plus importantes qu'ailleurs. Ça peut être un choix de société, hein. On va pas faire de morale, mais en tout cas, l'efficacité économique quant au niveau du chômage, eh bien, elle n'est pas discutable de ce point de vue. Plus on met la pression sur les gens, plus ils sont contraints de retrouver un emploi, même dans des conditions salariales et sociales difficiles. Encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais en tout cas, c'est ce qui se produit. Et le deuxième, c'est le niveau de formation. Parce que on voit bien qu'il y a des métiers, même, alors, je parlais à l'instant des développeurs où on peut embaucher les gens sans formation, parce qu'on peut les former, au fond, ça demande pas un temps considérable, mais le technicien du génie climatique, c'est plus compliqué. Les entreprises, surtout les PME, ne sont pas forcément équipées pour mettre en place un système de tutorat qui leur permet de prendre un jeune et puis de le mettre à niveau progressivement. Il faut en avoir le goût, en avoir le temps et en avoir les moyens. C'est long, hein, d'intégrer des jeunes. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il suffit pas de les installer pour qu'ils soient opérationnels. Donc, on voit bien que la pénurie de compétences et donc les défauts de formation, la lenteur de réactivité du système de formation aux signaux envoyés par le marché du travail. Aujourd'hui, génie climatique, du coup, on pourrait se dire, bah, il faut que les écoles se mettent à former des techniciens compétents. Oui, elles vont déjà mettre un an ou 18 mois à le comprendre, et puis elles vont mettre un an ou 18 mois à mettre en place les filières, et puis un an ou 18 mois à faire la communication. Et finalement, les techniciens du génie climatique, ils arriveront 5 ans après la demande envoyée par le marché. Donc tout ça explique que l'adéquation entre la demande de travail et l'offre ne soit pas parfaite, et que malheureusement, on puisse avoir la coexistence de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs durables, et de chômeurs dans nos pays, même si globalement, on peut penser qu'à 6% de croissance, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on devrait quand même d'abord au moins éviter la catastrophe sociale qu'on avait pu redouter, et deuxièmement, retrouver quand même un niveau de chômage plus faible, espérons-le.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.